VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barge.
En Guinée, pouvoir et opposition ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur l'ouverture du dialogue devant aboutir à un consensus pour l'organisation des futures élections. Depuis une semaine, l'opposition organise des manifestations dans la capitale, Conakry. Les violences ont fait des morts et plusieurs blessés. Voici un reportage de Zakaria Camara.
Trêve à Conakry pour permettre aux Guinéens de la capitale de souffler, de s'approvisionner, dit l'opposition, alors que le gouvernement continue d'appeler au dialogue. Un dialogue que refusent les responsables des partis politiques de l'opposition. Nous retournerons à la table de discussion à la seule condition que le chronogramme des élections publié par la Commission électorale nationale indépendante soit annulé, a déclaré hier le chef de file de l'opposition guinéenne, quelques heures après le début d'une marche interdite par le gouverneur de Conakry. Hier, et comme lors des précédentes manifestations, les forces de l'ordre et jeunes manifestants ont échangé projectiles contre gaz lacrymogène dans les quartiers favorables à l'opposition guinéenne. Pour le moment, la CENI maintient l'organisation de la présidentielle avant les locales et l'opposition d'appeler à une nouvelle marche jeudi prochain pour Adissé Ludalène Diallo demander la démission du président Alpha Condé. Conakry, Zakaria Camara pour la Voix de l'Amérique.
Dans le nord du Mali, le syndicat des chauffeurs de Gao décrète un arrêt de travail pour 72 heures. Cette grève qui a commencé ce matin concerne le transport routier, le transport fluvial et même les véhicules privés ne sont pas autorisés à rouler dans la ville, nous dit notre correspondant Boubacar Touré.
Les attaques multipliées sur les routes et les assassinats sauvages ont amené le syndicat des chauffeurs de la région à décréter une cessation de travail pour 3 jours. Aliou Sagayar Dikaï, secrétaire général du syndicat des chauffeurs.
Ils ont tué un chauffeur de l'UICR sur sa direction. Même pas une semaine après, on a fait descendre 2 jeunes chauffeurs de 25 à 18 ans et présentement l'un d'eux à sa femme, même en état de grossesse presque à terme, sauvagement abattu parce qu'on les a fait coucher et mitrier. Hier encore, ils ont abattu un autre. Donc on a jugé nécessaire que ça ne peut pas continuer trop, c'est trop. Il faut qu'on arrête, on descende de la direction. Déjà, nous sommes des cadavres parce qu'un chauffeur sur la direction, c'est déjà un mort. Donc, il ne faut pas nous tuer avant que le jour n'arrive. Les 72 heures, on va les faire.
La centrale, la syndicale des travailleurs du Mali, UNTM, section de Gao, soutient cette grève des chauffeurs de la région. Mousseline Meïga, secrétaire général adjoint de l'UNTM, section de Gao.
Nous les soutenons pour l'arrêt des véhicules. Le marché doit continuer, les gens doivent à leurs affaires, les écoles continuent. Pas de casse, pas d'agression physique, pas d'agression verbale.
Gao Boubacar Touré, VOA Afrique.
Un tribunal égyptien a condamné ce mardi l'ancien président Mohamed Morsi à 20 ans de prison en relation avec le meurtre de manifestants en 2012. Monsieur Morsi et 12 autres frères musulmans échappent à la peine de mort car ils ont été reconnus coupables d'intimidation et de violence, mais pas d'assassinat. Les accusations sont liées à des affrontements devant le palais présidentiel lorsque des partisans islamistes de Monsieur Morsi avaient attaqué des manifestants qui dénonçaient un décret déclarant que ces décisions ne pouvaient pas être contestées par les tribunaux. En Afrique du Sud, l'armée va être déployée dans le township d'Alexandra, Johannesburg, pour aider dans la lutte contre les violences xénophobes qui ont fait au moins 7 morts. Sur place, le témoignage d'Armand Bokoko.
Oui, l'armée a été déployée. Bon, enfin, le ministre de la police a essayé de donner un peu d'informations. Bon, le temps utilisé montre comme si la police est limitée. Mais c'est comme s'il déclarait l'état de siège. Ce n'est pas officiellement dit que c'est l'état de siège. Comme la police a vu que beaucoup de zones dans les bidonvilles, pas seulement à Jobou, à Durban, cette situation peut se déclencher dans toute l'Afrique du Sud, alors ils ont demandé de l'aide parce qu'ils n'ont pas assez de ressources pour contenir cela. Ça fait une semaine que la police a lancé la requête pour que l'armée puisse assister. Il y a 2 voies. L'armée assiste la police dans le sens que la police puisse continuer à faire le travail. Deuxième cas, c'est que l'armée va essayer de voir dans quelle mesure, en collaboration avec la police, contenir les zones, c'est-à-dire qu'ils mettent seulement leur présence pour étouffer ceux qui ont des intentions criminelles.
Au moins 7 personnes ont été tuées dans la capitale somalienne Mogadiscio par l'explosion d'une voiture piégée ce mardi devant un restaurant populaire à l'heure du déjeuner. Reuters cite un porte-parole d'Al-Shabaab déclarant que le groupe est derrière l'attaque. Au moins 8 autres personnes ont été blessées dans l'explosion qui a visé le restaurant Banada, un endroit fréquenté par des fonctionnaires et des employés du palais présidentiel. Et les États-Unis ont mis 2 chefs d'Al-Shabaab sur leur liste noire, le numéro 1 du groupe extrémiste Ahmed Diri et le chef du renseignement du groupe, Maad Karate, ont été désignés comme terroristes par le département d'État.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Italie, suite de l'enquête après le naufrage ce week-end d'un bateau transportant des centaines de migrants, la plupart sont morts en Méditerranée, l'étau se resserre sur le commandant du bateau, Nicolas Pino.
La détention de Mohamed Ali Malek doit être confirmée ce mardi par le parquet de Catane en Sicile. La justice italienne considère ce Tunisien âgé de 27 ans comme l'unique responsable de ce drame. Pour les procureurs en charge de l'enquête, l'homme a provoqué le naufrage en surchargeant son navire et en se montrant incapable de le manœuvrer à l'approche d'un cargo portugais venu le secourir. Le bilan officiel du naufrage est de 24 morts, 28 survivants, mais selon les organisations humanitaires internationales, le nombre de personnes disparues est estimé à environ 800, dont des femmes et des enfants. Depuis le début de l'année, quelques 1750 migrants, hommes, femmes et enfants, ont péri en mer, dont 450 la semaine dernière. C'est 30 fois plus que durant la même période l'année dernière, selon l'Office des migrations internationales.
Les États-Unis ont rapproché leur porte-avions Roosevelt des côtes du Yémen et surveillent un convoi de navires iraniens qui pourrait se diriger vers le pays. Washington tient toutefois à souligner que ce déploiement maritime ne signifie pas nécessairement une intervention américaine directe. Des explications avec Salwa Jafari.
Au large des côtes yéménites, les aéronefs font leurs allers-retours sur les porte-avions. Des vols d'exercice. Les États-Unis insistent, leur pays n'est pas en guerre au Yémen. Pourtant, Washington vient de rapprocher son porte-avions Roosevelt du pays et surveille de près un convoi de navires iraniens. Le bras de fer entre Washington et Téhéran est à peine voilé. L'Iran soutient les rebelles, les États-Unis se tiennent à la disposition de Riyad et de ses alliés. Le président iranien demande un cessez-le-feu pour donner le temps aux Yéménites de former un nouveau gouvernement représentant toutes les tribus et toutes les factions. Pendant ce temps, l'Arabie saoudite poursuit ses raids aériens contre les rebelles chiites. À Sanaa notamment, où des explosions déclenchées hier par des raids contre une cible militaire rebelle ont fait 38 morts parmi les civils. Sur la totalité du territoire, on parle d'un bilan de 700 morts et de 3000 blessés. Des milliers de personnes ont été jetées sur le chemin de l'exil depuis le début des raids.
Et le Pentagone ne pense pas que le chef du groupe État islamique Abu Bakr al-Baghdadi a été blessé dans une frappe aérienne de la coalition, comme l'affirment certains médias, rapporte l'AFP, citant un porte-parole du Pentagone. Cette information avait déjà émergé à la mi-mars et le Pentagone avait alors estimé qu'il n'y avait rien pour indiquer que al-Baghdadi avait été blessé ou tué, a déclaré le colonel Stephen Warren. Le quotidien britannique The Guardian a indiqué ce mardi que al-Baghdadi avait été sérieusement blessé le 18 mars dans l'ouest de l'Irak dans une frappe de la coalition aérienne contre l'organisation État islamique menée par les États-Unis. La seconde phase du procès de l'auteur des attentats du marathon de Boston, Johar Tsarnaev, s'est ouverte aujourd'hui avec la requête de la peine de mort par le procureur. On se rappelle, le 8 avril dernier, un jury de 12 membres avait trouvé le jeune Américain d'origine tchétchène coupable de 30 chefs d'accusation, dont 17 prévoient la peine capitale.